Chapitre 30. Je suis sûr que Diodème pensait qu'après avoir lu ce qu'il m'avait écrit, j'en viendrais à le détester résolument. Diodème me croyait encore dans l'ordre de l'humain, mais il se trompait. Hier soir, après avoir rangé la resserre, après avoir trouvé fortuitement la cachette, parcouru tout ce que l'enveloppe brune contenait, j'ai rejoint Emilia dans le lit. Il était tard, elle dormait. Je me suis blotti contre elle. J'ai épousé sa chaleur et la forme de son corps, et je me suis très vite endormi. Je n'ai même pas songé à ce que je venais de lire. Mon âme était curieusement légère et mon corps très lourd de fatigue et de liens dénoués. J'ai chuté avec bonheur dans le sommeil, comme on le fait chaque soir durant l'enfance. Et j'ai fait des rêves, non pas les rêves qui d'ordinaire me torturent. Le puits noir du Kasserkvir autour duquel je tourne sans cesse. Non, j'ai fait des rêves paisibles. J'ai retrouvé l'étudiant Kelmar. Il était bien vivant et portait sa belle chemise blanche en lin, brodée de torsades. Elle était immaculée et soulignait le hâle de sa peau et son cou si fin. Nous n'étions pas sur le chemin du camp. Nous n'étions pas non plus dans le wagon où nous avions passé des jours et des nuits entassés avec d'autres. Nous étions dans un lieu qui ne me rappelait rien de connu et dont je ne pourrais même pas dire s'il se trouvait dans une maison ou bien au dehors. Kelmar était comme je ne l'avais jamais connu. Il ne portait trace d'aucun coup. Ses joues étaient fraîches et rasées. Ses vêtements sentaient bon. Il souriait. Il me parlait. Il m'a parlé longuement et moi, je l'écoutais sans l'interrompre. Puis, à un moment, il s'est levé et j'ai compris, sans qu'il ait eu besoin de me le dire, qu'il lui fallait partir. Il m'a regardé, m'a souri, et j'ai le souvenir très net des derniers mots que nous avons alors échangés. Après ce que nous avions fait dans le wagon, Kelmar, j'aurais dû m'arrêter comme toi. Ne plus courir, m'arrêter sur le chemin. Tu as fait ce que tu as cru bon de faire, Brodeck. Non, c'est toi qui as eu raison. C'est ce que nous méritions. J'ai été un lâche. Je ne sais pas si j'ai eu raison. La mort d'un homme, Brodeck, ne rachète jamais le sacrifice d'un autre homme. Ce serait trop simple. Et puis, ce n'est pas à toi de juger. Ce n'est pas à moi non plus de le faire. Ce n'est pas aux hommes de se juger les uns les autres. Ils ne sont pas faits pour cela. Kelmar, crois-tu qu'il est temps pour moi de te rejoindre maintenant? Reste de l'autre côté, Brodeck. Ta place est encore là-bas. Ce sont les derniers mots de lui dont je me souvienne. Puis j'ai voulu m'approcher. J'ai voulu le prendre contre moi et le serrer dans mes bras, mais je n'ai alors étreint que du vent. Je ne crois pas que les rêves annoncent quoi que ce soit, comme certains le prétendent. Je pense simplement qu'ils adviennent au moment où il faut et qu'ils nous disent, dans le creux de la nuit, ce que nous n'osons peut-être pas nous avouer en plein jour. Je ne vais pas reproduire toute la lettre de Diodème. D'ailleurs, je ne l'ai plus. Je mesure combien il a dû lui en coûter de l'écrire. Je ne suis pas parti de moi-même pour le camp. On m'a arrêté et on m'y a emmené. Les frères Gkaime venaient d'entrer dans notre village depuis à peine une semaine. La guerre avait commencé 3 mois plus tôt. Nous étions coupés du monde et nous ne savions pas grand-chose. Les montagnes nous protègent souvent du tapage, mais elle nous isole en même temps d'une partie de la vie. Nous les vîmes arriver un matin, une longue colonne étirée et poussiéreuse qui marchaient vite sur la route de la frontière. Personne ne chercha à ralentir leur progression et de toute façon, cela aurait été inutile. Et puis, je crois que chacun avait en tête la mort des deux fils Orgevir. Et c'est bien ce que tout le monde voulait éviter, qu'il y ait d'autres morts. Par ailleurs, le plus important et qui permet de comprendre, c'était que ceux qui arrivaient chez nous casqués, armés, forts de leur victoire fracassante sur toutes les troupes qu'ils avaient croisées, étaient bien plus proches des habitants de notre région que ne l'est la plus grande partie de la population de notre propre nation. La nation, pour les hommes de par ici, elle n'existait guère. C'était un peu comme une femme qui se rappelait de temps à autre à eux, par un mot doux, une demande, mais dont ils ne voyaient jamais vraiment ni les yeux ni les lèvres. Ces soldats qui venaient en vainqueurs partageaient nos coutumes, parlaient une langue tellement proche de la nôtre qu'il suffisait de peu d'efforts pour la comprendre et la manier. L'histoire séculaire de notre contrée se confondait avec celle de leur pays. Nous avions en commun des légendes, des chansons, des poètes, des ritournelles, une façon d'accommoder les viandes et de préparer les soupes, une même mélancolie et une semblable propension à tomber dans l'ivresse. En définitive, les frontières ne sont que des coups de crayon sur des cartes. Elles tranchent des mondes, mais ne les séparent pas. On peut parfois les oublier aussi vite qu'elles furent tracées. L'escouade qui pénétra dans le village se composait d'une centaine d'hommes, placés sous le commandement d'un capitaine qui se nommait Adolphe Bouleur. Je ne l'ai que très peu connu. Je me souviens de lui comme d'un homme de petite taille, très maigre, affligé d'un tic qui lui faisait donner un coup de menton sec sur sa gauche toutes les 20 secondes environ. Il montait un cheval au poil crasseux et couvert de boue, et ne se séparait jamais de sa cravache, une cravache courte, à la pointe tressée. Orgevir et le curé Piper s'étaient postés à l'entrée du village pour accueillir les vainqueurs et les supplier d'épargner les habitants et les maisons. Tandis que, partout, les portes et les volets s'étaient fermés à double tour et que chacun retenait son souffle. Le capitaine Bouleur, sans descendre de sa monture, écouta bredouiller Orgevir. À ses côtés, il y avait un porte-drapeau qui tenait une lance sur laquelle était fiché un étendard rouge et noir. Dès le lendemain, il remplaça le drapeau aux fêtes de la mairie. On pouvait y lire le nom du régiment auquel appartenait l'escouade. « Der Unverfund par Anlauf » « L'élan invulnérable » ainsi que sa devise « Hinter uns niemand » « Après nous, personne ». Bouleur ne répondit rien à Orgevir. Il donna quelques coups de menton, écarta doucement le maire avec sa cravache et avança, suivi de ses soldats. On aurait pu croire qu'il allait exiger que ses hommes soient logés bien au chaud, dans des lits, derrière les gros murs des maisons. Il n'en fut rien. La troupe s'installa sur la place des Halles, déballa de larges tentes, les monta en un clin d'œil, puis des soldats frappèrent à toutes les portes afin de collecter et de confisquer les armes. Des fusils de chasse, la plupart du temps, ils le firent sans la moindre brutalité, avec la plus grande des politesses. Par contre, lorsqu'Aloïs Cator, un raccommodeur de faïence qui voulait toujours faire le malin, leur dit qu'il n'avait aucune arme chez lui, ils le mirent en joue, fouillèrent de fond en comble la cage à lapins dans laquelle il vivait, et finirent par découvrir une vieille pétoire. Ils la lui mirent sous le nez, et les emmenèrent, lui et le fusil, devant le capitaine Bouleur qui buvait une eau-de-vie devant sa tente, tandis que son ordonnance se tenait derrière lui avec le flacon, prêt à le resservir. Les soldats expliquèrent l'affaire. Cator affichait un air goguenard, Bouleur le jaugea des pieds à la tête, but cul sec son verre de prune, eut son petit tic nerveux, se fit resservir, appela, en pointant vers lui sa cravache. Un lieutenant à la peau groseille et aux cheveux de foin lui chuchota quelques mots à l'oreille. L'autre opina, claqua des talons, salua et partit, entraînant avec lui les deux soldats et leurs prisonniers. Quelques heures plus tard, un tambour passa dans les rues en criant une annonce. « Toute la population, sans exception, devait se rendre à 7 heures devant l'église pour assister à un événement de la plus haute importance. La présence de tous était obligatoire sous peine de sanction. Peu avant l'heure dite, chacun sortit de sa maison, en silence. Les rues furent bientôt pleines de cette étrange procession, qui ne disait mot, et dont les visages n'osaient se relever, regarder autour d'eux, rencontrer d'autres yeux. Nous marchions, Emilia et moi, en nous tenant la main avec force. Nous avions peur. Tout le monde avait peur. Le capitaine Buller nous attendait sur le parvis, sa cravache à la main, entouré de ses deux lieutenants, celui que j'ai dit et un autre, courtaud et noir de poil. Lorsque la petite place de l'église fut pleine, que chacun fut immobile et qu'il n'y eut plus aucun bruit, il parla.
« Habitantes, habitants, nous ne venons pas ici pour détruire et salir. On ne détruit ni ne salit ce qui nous appartient, ce qui est nôtre, sauf si on est atteint de folie. Et nous ne sommes pas atteints de folie. Votre village a la chance suprême de faire partie désormais du grand territoire. Vous êtes ici chez vous, et ce chez vous est notre chez nous. Nous sommes désormais unis pour un avenir millénaire. Notre race est la race première, immémoriale et immaculée. Ce sera la vôtre aussi, si vous consentez à vous débarrasser des éléments impurs qui sont encore parmi vous. Aussi, faut-il que nous vivions dans une parfaite entente et une totale franchise. Il n'est pas bon de tenter de nous mentir. Il n'est pas bon de tenter de se jouer de nous. Un homme a essayé de le faire aujourd'hui. Nous espérons que son exemple ne sera pas suivi. »
Buller avait une voix délicate, presque féminine. Et ce qui était curieux, c'était que lorsqu'il parlait, il n'avait plus ce mouvement incontrôlé du menton qui le faisait ressembler à un automate détraqué. À peine eut-il terminé son discours, qu'avec un protocole impeccable, comme si tout avait été répété de multiples fois, on fit venir sur la place, devant lui, Aloïs Cator, accompagné par les deux soldats qui en avaient la charge. Derrière eux, à 1 mètre, un autre soldat portait quelque chose de lourd, qu'on distinguait mal. Lorsqu'il le posa à terre, on vit qu'il s'agissait d'un morceau de bois, une section 1 mètre de haut environ coupée dans le fût d'un sapin. Alors tout alla très vite. Les soldats empoignèrent Cator, le firent s'agenouiller, lui posèrent la tête sur le tronc, se reculèrent. Arriva un 4e soldat qu'on n'avait encore pas vu. Il avait la poitrine et les jambes sanglées dans un grand tablier de cuir sombre. Dans ses mains, il tenait une grande hache. Il s'arrêta très près de Cator, souleva sa hache, et avant même que quiconque ait le temps de dire « ouf », il l'abattit avec force sur la nuque du raccommodeur. La tête tranchée nette roula au bas du billot. Un gros flot de sang jaillit du corps qui, comme celui d'une oie à qui on coupe le cou, fut agité de mouvements saccadés durant plusieurs secondes, avant de s'immobiliser, inerte. Au sol, la tête de Cator nous regardait. Il avait la bouche et les yeux grands ouverts, comme s'il venait de nous poser une question à laquelle nous n'avions pas répondu. Tout était allé si vite. La scène épouvantable nous avait tous figés. C'est la voix du capitaine qui nous tira de notre stupeur pour nous plonger dans une autre, plus grande encore.
« Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent jouer. Songez-y, habitantes, habitants. Songez-y. Et pour que vous puissiez bien y réfléchir, le corps et la tête de ce Fremder resteront ici. Interdiction de l'ensevelir sous peine de connaître le même sort. Un conseil encore. Purifiez votre village. N'attendez pas que nous le fassions, nous-mêmes. Purifiez-le tant qu'il est temps. Et maintenant rentrez chez vous, dispersez-vous. Je vous souhaite le bonsoir. »
Son menton donna un petit coup sur la gauche, comme pour chasser une mouche. Il claqua sa cravache contre la couture de son pantalon, fit demi-tour, et s'en alla, suivi de ses lieutenants. Emilia tremblait contre moi et sanglotait. Je la serrai contre ma poitrine du mieux que je pouvais. Elle ne cessait de répéter d'une voix très basse « C'est un cauchemar. Brodeck, c'est un cauchemar, n'est-ce pas ?» Ses yeux ne quittaient pas le corps sans tête de Cator, affalé sur le billot. « Viens, » lui dis-je en posant ma main sur son regard. Plus tard, alors que nous étions déjà couchés, on frappa à notre porte. Je sentis Emilia tressaillir. Je savais bien qu'elle ne dormait pas. Je l'embrassai dans la nuque et descendis. Fédorine avait déjà fait entrer le visiteur, c'était Diodème. Elle l'aimait beaucoup. Elle l'appelait dans sa vieille langue le Cloubaïg, le savant. Nous nous assîmes tous les deux autour de la table. Fédorine nous apporta deux tasses et y versa une tisane qu'elle venait de se préparer avec du serpolet, de la menthe, de la mélisse et des bourgeons de sapin. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» me demanda Diodème. « Comment ça, qu'est-ce que je compte faire ?»«
Je ne sais pas, moi. Tu étais là comme moi. Tu as vu ce qu'ils ont fait à Cator ?»«
Je l'ai vu. »«
Et tu as entendu ce qu'a dit l'officier ?»
Qu'il était interdit de toucher le corps. Ça m'a rappelé une histoire grecque que Nozol nous raconta à l'université, celle d'une princesse qui
laisse dormir les princesses grecques. Ce n'est pas de ça que je voulais parler,
me coupa Diodème, qui ne cessait de se tordre les mains. Quand il a dit qu'il fallait purifier le village,
qu'est-ce que tu as compris?
Ces gens-là sont fous. Je les ai vus à l'œuvre quand j'étais dans la capitale. Pourquoi crois-tu qu'à l'époque je sois revenu au village?
Ils sont peut-être fous, mais n'empêche qu'aujourd'hui, ce sont eux les maîtres, depuis qu'ils ont chassé leur empereur et enfoncé nos frontières.
Ils partiront, Diodème, ils finiront par partir.
Pourquoi voudrais-tu qu'ils restent chez nous?
Il n'y a rien ici. C'est le bout du monde. Ils voulaient nous montrer que désormais ils sont les seigneurs.
Ils l'ont fait.
Ils ont voulu nous terroriser, ils sont réussis.
Ils vont rester quelques jours, et puis ils iront ailleurs, plus loin.
Et le capitaine nous a menacés. Il a dit que c'était à nous de purifier le village.
Et alors? Que proposes-tu de faire? Nettoyer les rues avec un seau d'eau et un balai?
Ne plaisante pas, Brodeck. Crois-tu que eux plaisantent? Sa phrase n'était pas innocente. Il a choisi tous les mots. Il ne les a pas dit au hasard. C'est comme ce mot de Fremder pour désigner le pauvre Cator. C'est le mot qu'ils utilisent pour parler de tous ceux qui ne leur plaisent pas. Les fremdeurs, les pourritures, je l'ai vu peint ce mot sur bien des portes durant la pourrichenart.
Tu sais bien que ça veut dire étranger aussi.
Cator n'était pas un étranger. Sa famille est aussi vieille que le village.
Diodème desserra le col de sa chemise qui semblait l'étouffer. Il épongea d'un revers de main son front couvert de sueur, me lança un regard craintif, tourna les yeux vers sa tasse, en but une lampée, me regarda de nouveau furtivement, baissa une fois de plus les yeux, puis dit, presque dans un murmure, « Mais toi, Brodeck ?»